Mardi 20 août 2019. Et bienvenue sur Europe 1, il est 8h. Journal complet de la rédaction d'Europe 1, Sébastien Krebs.
Merci de nous rejoindre encore ce matin. Théo Manval pour l'info. Bonjour Théo.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
À la une ce matin.
Un dispositif de sécurité jamais vu. 10 000 membres des forces de l'ordre seront mobilisés autour du G7 à Biarritz. Christophe Castaner doit faire le détail sur place cet après-midi. 3 millions de familles l'attendent. L'allocation de rentrée scolaire sera versée à partir d'aujourd'hui. Particulièrement attendue par les parents d'ados, notamment avant la rentrée au lycée. Dans ce journal également, cette nouvelle vidéo choc de l'association L200 qui dénonce l'élevage intensif des lapins dans l'Hexagone. Des sangliers qui prolifèrent jusque dans les rues de Berlin à cause du réchauffement climatique. On réfléchit, tenez-vous bien, à les chasser à l'arc. Et puis cinéma, le festival du film francophone d'Angoulême ouvre ses portes ce soir.
Après le journal, l'éclairage international de Didier François, Donald Trump négocie une sortie d'Afghanistan avec les talibans. 8h15, la politique, comment reconstruire la droite, quelle place pour la nouvelle génération chez les républicains. Je reçois le député du Pas-de-Calais, Pierre-Henri Dumont.
Europe 1. Le terme XXL ne suffit même plus pour qualifier l'ampleur du dispositif de sécurité que Christophe Castaner s'apprête à détailler cet après-midi à Biarritz. Le ministre de l'Intérieur va annoncer la mobilisation d'au moins 10 000 policiers, gendarmes et militaires pour protéger la tenue du G7 qui s'ouvre samedi dans la station de la Côte Basque, Salomé Legrand.
C'est l'aveu même d'un haut gradé, difficile de faire plus large échantillon de forces publiques sur une même bande de territoire. Depuis l'armée de l'air jusqu'à la police secours, en passant par les services d'intervention comme le RAID ou le GIGN, tout le monde est sur zone, y compris la gendarmerie à cheval. Le plus gros des troupes réside dans les quelques 90 unités de forces mobiles, soit 6000 CRS et gendarmes, pour qui hôtels, campings, mais également villages vacances environnants ont été réquisitionnés. Une mobilisation équivalente à certains samedis de gilets jaunes, mais concentrée sur une seule région. 3 matchs de Ligue 1 ont carrément été reportés pour libérer des effectifs. Unités auxquelles s'ajouteront les fameuses Braves, brigades de répression de l'action violente, très mobile et réinventé cet hiver à Paris pendant les manifestations, mais surtout les 3 armées, air, terre et mer, avec tout un arsenal, un dispositif anti-drone, des radars tactiques contre l'intrusion éventuelle de parapentes ou ULM, des avions Rafale en alerte à Mont-de-Marsan, les hélicoptères de défense aérienne avec à leur bord des tireurs d'élite et même des missiles sol-air. La police espagnole est également mobilisée pour réaliser depuis hier des barrages filtrants à la frontière.
Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1. Pendant ce temps du côté d'Hendaye, les premiers militants anticapitalistes sont arrivés pour le contre-sommet qui doit débuter demain. Ils sont en train de monter leur campement et promettent un rassemblement pacifique. Claudia Bertram.
Bienvenue au contre-sommet, peut-on lire en 4 langues à l'entrée du campement. Les militants arrivent au fur et à mesure, une fois sa tente plantée. Nicole vient prêter main forte pour tout installer.
Ça peut être des panneaux, ça peut être aller mettre les panneaux en place pour que les gens ne se perdent pas. Participer à nourrir les gens, installer des toilettes sèches, installer des douches solaires. Voilà, il y a tellement de choses à faire.
Autour de l'espace central, un petit atelier pour bricoler, une zone cantine et un coin gilet jaune. Les militants comme Jean-Pierre veulent montrer qu'une autre société est possible.
Un autre monde, plus juste, socialement, économiquement et une prise de conscience écologique.
Un contre-sommet qui se veut ouvert et pacifique. Christine fait partie de l'une des plateformes organisatrices.
C'est vraiment quelque chose de très très solidaire qui se met en place. Nous, on a tout fait de façon à ce que ça soit fluide. On a mis des systèmes de bus en route. Dans Hendaye, on ira à pied. Il y a tout un système de vélo qui est mis en route pour encombrer le moins possible la ville d'Hendaye.
Le camp de vie devrait être fin prêt d'ici demain pour l'ouverture officielle du contre-sommet. Urugne, Claudia Bertram, Europe 1.
Europe 1, 8h04.
L'autre grand titre ce matin, c'est le versement de l'allocation de rentrée scolaire lancée aujourd'hui pour 3 millions de familles.
Pour les aider à faire face aux dépenses en fourniture, ça va de 368 € versés pour un enfant à partir de 6 ans jusqu'à 402 € pour les ados de 15 à 18 ans. Une aide particulièrement bienvenue pour les parents de lycéens dont les listes de matériel à rallonge grèvent souvent le budget du mois d'août. Caroline Baudry.
Awa sort de cette CAF de Paris soulagée. Elle va percevoir 400 € pour financer la rentrée au lycée de sa fille aînée. Elle constate comme d'autres parents que plus les enfants grandissent, plus les fournitures sont nombreuses et chères.
Il y a ma fille qui m'a dit que ça coûte déjà 80 €. La calculatrice que je dois lui acheter. Oui, ça sera compliqué sans cette aide. C'est vraiment indispensable. Ouais.
Un indispensable pour des parents qui doivent acheter des cahiers et des stylos en double voire en triple pour tenir toute l'année. Et puis ils doivent aussi en profiter pour habiller leurs ados. Catherine élève seule son fils de 18 ans qui entre en études supérieures.
C'est pas évident, surtout quand il rentre à l'âge adulte comme ça. Bon, mais il n'y a pas que les fournitures scolaires, il y a aussi les vêtements. Cette génération, ils aiment porter beaucoup de baskets. Bon, les baskets, c'est bien, mais c'est pas donné. Hein. Et des jeans, et puis voilà.
L'occasion aussi de faire plaisir à ses enfants avec autre chose que des gommes ou des dictionnaires.
Caroline Baudry, la France et le Panama vont créer un groupe de travail commun pour lutter contre l'évasion fiscale. Annonce cette nuit du ministre des Comptes Publics, Gérald Darmanin, en déplacement dans ce pays d'Amérique latine. Le Panama fait partie de la liste des paradis fiscaux établis par Paris. En 2016, le scandale des Panama Papers avait mis au jour 500 dossiers d'évasion fiscale dans le pays par des ressortissants français.
Dans cette nouvelle vidéo à présent de l'association L214, qui va encore faire beaucoup réagir.
Après les bovins, les élevages de porcs ou encore le broyage des poussins, l'association de protection des animaux publie cette fois une enquête sur les conditions d'élevage des lapins en France. Des images tournées en caméra cachée dans un élevage intensif des Deux-Sèvres et qui mettent en lumière le manque de réglementation de cette filière en France. Victor Delande.
Des cages en fer alignées à perte de vue dans un immense entrepôt. À l'intérieur, plus de 8000 lapins entassés les uns sur les autres, 500 mères reproductives et leurs laprots qui ont à peine 20 cm d'espace chacun. Certaines bêtes sont blessées, les pattes coincées dans les grilles des cages. Sur les images de l'association L214, on voit aussi des lapins morts au milieu des autres. Et à chaque nouvelle portée, l'éleveur fait le tri et les laprots en trop sont abattus, assommés contre le coin d'une caisse en bois. Sébastien Arsac, porte-parole de l'association L214, dénonce l'absence de cadre législatif pour ces élevages de lapins.
Les élevages de lapins aujourd'hui sont encadrés par aucune réglementation spécifique, c'est-à-dire que l'éleveur peut entasser autant de lapins qu'il veut dans une cage et on ne va rien lui dire. Et donc ce qu'on réclame aujourd'hui, c'est de sortir de l'ère des cages.
Une pétition lancée pour l'interdiction des cages a déjà recueilli près d'un million de signatures. Quand ce seuil sera dépassé, la Commission européenne sera obligée d'entendre les revendications de ces associations et de se pencher sur ses pratiques dans ses élevages intensifs de lapins.
Victor Delande. À l'étranger, les autorités espagnoles déplorent un drame environnemental sur l'île de Grande Canarie. Elle fait face depuis ce week-end à son incendie le plus important de l'année. Le feu est toujours hors de contrôle. Il a déjà ravagé plus de 10 000 hectares de forêt de pins. Plus de 9 000 personnes ont dû être évacuées.
Alors qu'en Allemagne, le réchauffement climatique a une conséquence inattendue.
Voilà que les autorités sont obligées de faire chasser le sanglier jusque dans les rues de Berlin. Les hivers ne sont plus assez rigoureux. Les sangliers survivent donc mieux au froid. Ils peuvent avoir jusqu'à 4 portées par an et envahissent donc désormais les zones d'habitation. Hélène Cole.
Autour de Berlin, les chasseurs ont abattu 86 000 sangliers l'an dernier. Un record qu'ils devraient facilement battre cette année. Klaus est l'un d'entre eux. Avec son fusil, il prend sa mission très au sérieux.
On ne lâche rien. Il faut réduire la population afin que les maladies ne se répandent pas.
Car les sangliers peuvent par exemple transmettre la peste porcine aux élevages de la région. Il faut les tenir éloignés. Alors Klaus a appris à chasser hors des forêts.
Dans les champs ou les zones d'habitation, là il faut bien vérifier si la zone de tir est dégagée, s'il y a de quoi stopper la course de la balle.
La plupart du temps, le moindre coup de feu est impossible. Bernd est le maire d'une petite commune collée à Berlin, où les sangliers se promènent sur les trottoirs en pleine journée.
Ils ne sont plus du tout farouches parce qu'ils savent que les chasseurs ne peuvent pas tirer au fusil dans les rues. Nous devons trouver une méthode pour qu'ils comprennent que l'être humain représente un danger, par exemple avec des arcs et des flèches.
Il a déjà fait une demande officielle, l'autorisation de chasse à l'arc sur sa commune et espère décrocher cet hiver le feu vert des autorités. Berlin, Hélène Kohl, Europe 1.
Londres se dit extrêmement préoccupé ce matin après l'arrestation par Pékin d'un employé du consulat britannique à Hong Kong. Un agent qui revenait dans le territoire autonome après un déplacement à Shenzhen de l'autre côté de la frontière. Par ailleurs, Twitter annonce avoir fait fermer des milliers de comptes ces derniers jours, toujours en Chine. Twitter qui accuse les autorités chinoises d'avoir utilisé son réseau social pour mener une vaste campagne de désinformation contre les militants pro-démocratie.
Europe 1, 8h09.
En France, acheter une voiture électrique continue de coûter cher malgré les aides gouvernementales. Un collectif de passionnés se bat pour faire accepter dans la loi un nouveau dispositif.
Oui, ce qu'on appelle le rétrofit. C'est ce qui permet en fait de sauver un vieux modèle, souvent des voitures de collection, en remplaçant son moteur thermique par un moteur 100% électrique. Plusieurs de nos voisins, comme l'Allemagne ou les Pays-Bas, l'autorisent déjà dans leur législation, pas la France. Et dans un garage de Cassis, des férus de deux chevaux veulent faire accepter leur système dans l'Hexagone. Stéphane Frangy.
On connaissait la version originale, mais après modification, ce n'est plus du tout la même musique.
On a démarré.
Là, on a démarré.
Derrière le volant, Joël Recovery, responsable qualité au Méhari Club de Cassis.
On a tout le plaisir de rouler à bord de cette auto d'antan, cette auto mythique, sans avoir un bruit assourdissant.
À l'exception de son moteur remplacé par un kit électrique, cette deux chevaux jaune siglée James Bond 007 est 100% originale. C'est ce qu'on appelle du rétrofit.
Il y a des formes de carrosserie qui malheureusement ne seront plus reproduites par les constructeurs. Et beaucoup sont attachés à ces formes-là. La forme de la deux chevaux laisse personne indifférent. Surtout si un jour on tend vers une restriction des moteurs thermiques. Si on peut garder l'enveloppe extérieure, peu importe la motorisation, on aura toujours autant de plaisir à emmener ces belles carrosserie sur de belles routes de France.
Et le Méhari Club espère commercialiser son kit électrique aux alentours de 10 000 euros, mais il faut auparavant un feu vert des autorités. Des discussions sont d'ailleurs menées avec le ministère des Transports pour une possible autorisation à l'horizon 2020. Cassis, Stéphane Frangy, Europe 1.
Enfin, c'est l'un des rendez-vous incontournables du monde du cinéma. À la rentrée, le festival du film francophone d'Angoulême ouvre ses portes ce soir.
Avec une pluie de stars attendue pour cette 12e édition, il faut dire, Mathieu Charrier, qu'Angoulême lance chaque année des films qui peuvent faire l'événement jusqu'aux fêtes de fin d'année.
Depuis que le festival a notamment lancé la carrière foudroyante d'Intouchables, tout le monde s'y presse pour y présenter son film, à commencer ce soir par Yvan Attal, qui montrera en première mondiale Mon chien stupide. Il y joue Henri, écrivain en pleine crise de la cinquantaine, sa libido est en berne, sa créativité aussi, il a mal au dos et se fait quitter par sa femme Charlotte Gainsbourg. L'occasion d'une introspection qui touche chacun d'entre nous, assure Dominique Besnéard, créateur et délégué général du festival.
Ça parle d'un homme qui est en crise dans son couple, en crise dans l'inspiration, et on s'identifie. Voilà.
Et les festivaliers qui découvriront également cette année le nouveau Cédric Clapiche. Deux mois, Danny Boone sera là pour présenter Le Dindon, nouvelle comédie de Jalil Lesper. Pef dévoilera son Fame, porté par Gérard Depardieu. On attend également Cédric Kahn et sa fête de famille autant couleur, grâce à Catherine Deneuve, Emmanuel Berco ou Vincent McCain. Enfin, événement pour le soir de la clôture dimanche prochain avec la projection du Regard de Charles, documentaire réalisé à partir des vidéos personnelles de Charles Aznavour. Dominique Besnéard.
C'est un film qui m'a donné des frissons, parce que tout d'un coup, c'est toute une vie. Et une vie qui a été sous la lumière tout le temps. Et lui, il filme avec sa petite caméra.
Quant aux ciné-concerts, ils permettront de découvrir le prochain film de Claude Lelouch, tourné avec son téléphone portable, ou Notre-Dame, comédie chantante de Valérie Donzelli, bouclée juste avant l'incendie de la cathédrale.
Mathieu Charrier, Monsieur Cinéma d'Europe 1.